En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 15 octobre 2007, Bernard Charpentier, président de la Conférence des doyens de médecine, a prononcé une communication consacrée à la loi sur l'autonomie des universités. Retrouvons-le en salle des séances devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je remercie le président de l'Académie de m'avoir fait l'honneur de vous entretenir d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, l'autonomie des universités et l'enseignement de la médecine. Ce sujet a été mal répercuté cet été par les médias et comme je vais vous le démontrer, cette loi peut avoir un impact direct en mettant en danger la biappartenance hospito-universitaire et l'ordonnance de 1958 du professeur Robert Debré. J'aborderai ce sujet en tant que doyen, président de la Conférence nationale des doyens de faculté de médecine, mais aussi en tant que clinicien, néphrologue, spécialiste d'épuration extrarénale et de transplantation d'organes, et comme directeur d'unité INSERM consacrée à l'immunologie des greffes. Je vais donc parler des universités françaises que je peux personnellement comparer à d'autres, ayant été 2 ans résident postdoc fellow à l'Université McGill de Montréal. Les universités françaises ont été fondées sur un modèle scolastique dès les 12e et 13e siècles, sur l'exégèse des textes religieux, puis elles ont évolué en tant que génération du savoir et de sa transmission, ce qui implique qu'enseignement et recherche étaient devenus les 2 activités intriquées de tout champ universitaire. Elles ont constamment réfléchi que dans le cadre du savoir, sans avoir eu souci de générer du capital humain et des métiers créant la richesse de la cité. Il est savoureux de constater que l'autonomie de l'université, revisitée en 2007, a été revendiquée très tôt, dès le Moyen-Âge, pour obtenir des autonomies particulières, pédagogiques, fiscales et d'immunité de justice en jouant entre les pouvoirs de la cité, du prince et du pape. Cette autonomie a abouti très souvent à une catastrophe dont nous mesurons encore les effets délétères car l'université française n'a pas eu la capacité structurante des universités anglo-saxonnes. En fait, elle se refusait à prendre en compte les nouveaux savoirs amenés par l'expérience, la physique, la biologie, les sciences de l'ingénieur, voire d'anciens savoirs, mais bloquée par l'idéologie dominante, comme par exemple l'apprentissage du grec ancien et de l'hébreu. Cette cécité a poussé les pouvoirs en place à créer le Collège de France très tôt, le Musée d'histoire naturelle pour la biologie, puis une explosion de grandes écoles à la Révolution, destinées à former les cadres dont le pays avait besoin, et en corollaire, la fermeture des universités. C'est Bonaparte qui, à la place d'universités agonisantes, veut mettre en place les facultés où l'État contrôle les programmes, les recrutements, les règlements intérieurs. Ces facultés, contrôlées par l'État, s'avéreront aussi archaïques que les universités, manqueront là encore les grandes révolutions conceptuelles et en miroir pousseront à créer des organismes comme le CNRS, l'ENA, la Haute École des Sciences Sociales, indispensables à la vie de la cité. C'est la loi Edgar Faure de 1968 qui a recréé les universités et leur autonomie, mais reniée 16 ans plus tard par la loi Savary de 1984, installant la centralisation et le contrôle de l'État et la constitution démagogique des différents conseils de l'université. Cette situation, reconnue comme intolérable par tous, a abouti à cette nouvelle loi du 11 août 2007, dont le moins que l'on puisse dire est d'une part une absence de concertation totale avant promulgation et le rôle prédominant de la conférence des présidents d'université en faveur de l'hyper-présidentialisation alors que les présidents antérieurs avaient échoué. Et pour reprendre la phrase de Guy Burgel, professeur à Paris 10, et disant « Les présidences d'université ne cessent de réclamer plus de pouvoir, comme toute autorité qui a failli rejette sa responsabilité sur son absence d'indépendance. » Lors de ce court aperçu historique, qui est le mien, après 30 années passées en tant qu'enseignant-chercheur de l'université, et peut-être critiquable à d'autres yeux, qu'ont fait les facultés écoles de médecine? Elles ont toujours voulu être dans l'université, constitutive de celle-ci, avec la théologie, le droit et la pharmacie, mais toujours un peu à l'écart. À part, car même dans la tradition hippocratique et socratique, la médecine est un métier à part, s'occupant du pus, du sang, des larmes et de la mort, par un homme particulier, le médecin, pour ses frères en humanité, les autres hommes. Les facultés de médecine ont été saisies de 2 courants successifs. le courant théorique hippocratique des humeurs sans contact avec le malade, où l'on mirait simplement les urines. Puis le contact du malade, comme par exemple pour le chirurgien, le barbier, sans théorie, et permettant d'amputer les membres sur le champ de bataille sans bien connaître l'anatomie, et drainer les hémothorax, présence de sang dans le poumon, plaie de guerre à l'arme blanche, avec un chalumeau métallique sans connaître la plèvre et la physiologie pulmonaire. Ce changement de paradigme est visible. Ce n'est pas la rue de la faculté de médecine à l'Odéon, c'est la rue de l'école de médecine, si chère à nos amis anglo-saxons, qui gardent le terme Harvard Medical School, et non pas Harvard Faculty of Medicine. Régie par le décret Fourcret du 7 primaire en 3, puis par la loi du 19 Ventose en 11, inspirée par Cabanis, puis la loi du 30-11-1892, inspirée par le doyen Bouchard et le professeur Brouardel, la situation de la médecine en 1957 était en déshérence. Professeur de médecine n'allant pas à l'hôpital et n'y exerçant pas, médecin de l'hôpital ignorant la pédagogie et la recherche, biologie inexistante, les hôpitaux publics n'étaient alors que des lieux d'accueil et de miséricorde. On ne peut traiter de la place des facultés de médecine, d'odontologie et maintenant de pharmacie au sein de l'université sans prendre en compte l'intégration de ces facultés de santé dans les centres hospitaliers et universitaires. Il suffit de rappeler la déshérence de l'enseignement et de la recherche médicale quand ils étaient repliés au sein d'université. De la même manière, il suffit de rappeler la déshérence du système hospitalier public français quand il était totalement coupé de la recherche et de l'enseignement de la médecine. C'est pour avoir compris cela, c'est pour avoir écouté une poignée résolue de professeurs d'université médecins, et notamment Robert Debré, Marcel Legrain, Gérard Millot et Jean Dausset, prix Nobel, que des hommes politiques comme Pierre Mendès France, le général de Gaulle et Michel Debré ont permis par l'ordonnance de 1958 de sauver la médecine française. En créant le concept même de centre hospitalier et universitaire qui instituait le temps plein hospitalier et la triple mission enseignement, recherche et de soins et en liant par convention une faculté de médecine et un centre hospitalier régional prenant ensemble le nom de centre hospitalier et universitaire, le fameux CHEU. La gouvernance, elle est définie en double appartenance à l'université et à l'hôpital. Gouvernance dans l'université. Les facultés de santé étaient régies par l'article 32 de la loi Savary de 1984, qui comportait essentiellement les points suivants. Les conventions de structure du CHU sont négociées et cosignées par le doyen, le directeur général du CHU, et approuvées par le président de l'université. La compétence des doyens pour prendre toutes les dispositions résultant de l'application de ces conventions. 3. L'affectation directe aux unités de formation et de recherche de médecine des emplois hospitaux universitaires. 4. La qualité d'ordonnateur secondaire de droit des doyens. 5. L'autonomie pédagogique pour les deuxième et troisième cycles des études médicales. La nouvelle gouvernance universitaire, définie par la loi 1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités, introduit les modifications suivantes dans son article 15. 1. Les conventions hospito-universitaires, associant de plus, le cas échéant, les centres de lutte contre le cancer, ne peuvent plus être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies par le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale. 2. Le doyen n'est plus ordonnateur de droit, mais délégué. 3. Les emplois hospito-universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L 952-21 du Code de l'éducation. Les effectifs du personnel enseignant et hospitalier sont fixés pour chaque centre et pour chaque catégorie par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. 4. La révision des effectifs prend en compte les besoins de santé publique d'une part et d'enseignement et de recherche d'autre part. Ces nouvelles dispositions posent 6 questions ou commentaires. 1. Les emplois hospito-universitaires n'étant plus affectés à la faculté de médecine, mais à l'université, est-ce donc la mort de l'ordonnance de 1958? 2. Ces emplois ne devraient pas être fongibles avec les autres emplois à l'université, mais... 3. Est-ce que ces emplois peuvent subir le veto du président? 4. Est-ce que ces emplois peuvent être créés selon la volonté du président? 5. Est-ce que la commission de sélection de l'université s'applique aussi aux emplois universitaires? 6. Est-ce que les conseils d'administration peuvent créer autant d'UFR de santé qu'elles le désirent? Il n'y aurait 85 en France. Gouvernance dans le centre hospitalier universitaire, l'hôpital. Le doyen et son conseil de gestion effectuent la révision des emplois hospito-universitaires en lien étroit avec le directeur général et la commission médicale d'établissement. Ils co-signent avec le directeur général et le président de la commission d'établissement l'affectation des chefs de service et la nomination des coordinateurs de pôle. Ils allouent les étudiants de deuxième et troisième cycle aux services hospitaliers formateurs et participent ès-qualité au contrôle exécutif et à la commission de coordination pour la recherche biomédicale et en santé publique. Ils participent au conseil d'administration du CHU. Les doyens, en lien étroit avec les directions régionales d'action sanitaire et sociale, organisent et président au niveau régional la commission d'agrément chargée de proposer au préfet de région les services agréés pour les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires au niveau du CHU et les hôpitaux généraux de la région. Adaptabilité des facultés de médecine. Lors des débats entourant la discussion de la loi, le 10 août 2007, de nombreux commentaires ont fait état de positions privilégiées de la médecine, d'archaïsme hôpitaux universitaires, et que les facultés de médecine se devaient d'en retrait dans le rang. On se demande bien pourquoi. Parce que les IUT, article 33, et les grands établissements, article 34, ont échappé à la loi. Donc, d'un certain procès. Et j'y répondrai devant vous par quatre grands chapitres. Adaptabilité des facultés de médecine, l'ouverture pédagogique et la transdisciplinarité, l'ouverture à la recherche et nos propositions sur ces 50 prochaines années du XXIe siècle. Cette adaptabilité a été permanente depuis les dernières années. Explosion des connaissances médicales, pédagogie en renouvellement total, des deuxièmes cycles d'études médicales, du troisième cycle, formation médicale continue et évaluation des pratiques professionnelles. Utilisation massive du numérique et des enseignements sur intranet, internet. Compétition mondiale en matière de recherche et la France est le quatrième publicateur mondial en biologie santé. Relations internationales dans le cadre de la francophonie et ouverture à de nouveaux partenariats. L'Arabie Saoudite, le Golfe. Restructuration des UFR médicales. Il faut noter que 4 facultés de médecine parisiennes ont disparu dans les 5 dernières années. Les facultés de médecine ont par ailleurs su répondre aux demandes des gouvernements successifs de la République. C'est ainsi que les facultés de médecine ont géré, dans des conditions difficiles, l'augmentation des flux d'étudiants liés à une hausse nécessaire du numerus clausus. Ce sont elles qui, par la conférence des doyens, ont animé la commission pédagogique nationale des études médicales, aboutissant à la réforme du deuxième cycle des années 2000. Les facultés de médecine, par la conférence des doyens, ont joué un rôle clé dans la création et la mise en œuvre de la filière universitaire de médecine générale, répondant aux besoins de santé publique du pays. Sur le plan de la santé, les hôpitaux universitaires constituent le fer de lance des équipes professionnelles, travaillant aux côtés des praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers et universitaires. Les facultés de médecine et leurs doyens se sont engagés avec dynamisme dans la nouvelle gouvernance mise en place dans le plan 2007 et l'ordonnance de 2005. C'est ainsi qu'au sein de l'université, les hôpitaux universitaires statutairement pratiquent ce qu'ils enseignent et qui enseignent ce qu'ils pratiquent. Mais en même temps que les facultés de médecine, au nom des universités, se sont constituées comme des écoles professionnelles, animées par des professionnels de santé. Elles se sont très largement ouvertes aux autres composantes de l'université. Cette ouverture des facultés de médecine, à la fois totalement universitaire et totalement hospitalière, n'aurait pas été possible sans la souplesse de leur gestion liée à leur caractère dérogatoire. Ceci a toujours été compris par les gouvernements successifs depuis 1958. Les maux dont souffrent d'autres composantes de l'université française ne concernent pas la médecine. Ouverture pédagogique et interdisciplinarité. Il faut rappeler que la première année de médecine est une véritable classe préparatoire. Et je vous rappelle que dans l'année universitaire 2006-2007, il y avait 48 800 candidats en première année de médecine pour 7 100 places, soit un coefficient de réussite de 13%. Les doyens ont organisé la réorientation de certains étudiants n'ayant pas obtenu le concours, mais obtenu la moyenne vers d'autres composantes de l'université où ils peuvent avoir l'équivalence de la première année de licence. Le fléchissement du nombre d'étudiants dans les domaines scientifiques à l'université ne concerne ni la médecine, ni l'endodontologie, ni la pharmacie, au contraire. L'enseignement de la première année de médecine est véritablement interdisciplinaire. Les scientifiques non médecins sont largement impliqués et 20% de la note finale est obtenue par les sciences humaines et sociales, éthique, philosophie, histoire, sociologie, dont l'enseignement fait aussi appel à des non médecins. Il faut noter aussi qu'au cours du deuxième cycle, des enseignements de droit, d'éthique, de biologie font appel à des non-médecins. Pendant la formation médicale continue, de nombreux diplômes d'université font également appel à des non-médecins, statisticiens, professionnels en santé publique, biophysiciens, ingénieurs. Bien avant l'introduction en France du système licence, master, doctorat, LMD, processus de Bologne, elles ont accueilli en leur sein, c'est-à-dire parmi les hôpitaux universitaires, des assistants hospitaux universitaires, des maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers, et des professeurs d'université, praticiens hospitaliers, issus spécifiquement des disciplines scientifiques des universités. C'est en raison de leur savoir et de leur connaissance que ces collègues, bien que non médecins et non dotés de pouvoir de prescription, sont intégrés aujourd'hui dans les mêmes corps des hôpitaux universitaires. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur dispose des statistiques qui lui permettront de confirmer cette constatation vécue chaque jour dans nos facultés de médecine et dans nos centres hospitaliers et universitaires. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nos hospitalo-universitaires des disciplines biologiques mêlent des médecins, des pharmaciens, des scientifiques. Bien avant la mise en œuvre dans l'université française, du processus licence, master, doctorat, des hôpitaux universitaires portés par leur faculté de médecine se sont associés aux collègues d'autres composantes de l'université pour créer des diplômes d'études spécialisées supplémentaires, des diplômes d'études approfondies communs ainsi que des écoles doctorales. Quand l'université française a instauré le système LMD, licence, master, doctorat, c'est ce même mouvement qui a permis la mise en œuvre, à côté des cursus professionnalisants de santé, des cursus scientifiques fondés sur les masters professionnels et de recherche, ainsi que sur les écoles doctorales. L'entrée des études de médecine elle-même dans le système LMD pose des problèmes qui ne concernent pas que la France, mais qui concernent l'ensemble des pays membres de la communauté. La France n'a aucun retard dans la réflexion visant à intégrer les études de médecine dans le système LMD. Et le doyen Thuliez de Rouen, à la demande du gouvernement et au nom de la conférence des doyens, a produit dans ce sens un rapport dont il revient maintenant au gouvernement de la République de procéder à sa concrétisation. Ouverture à la recherche et interdisciplinarité. La recherche en sciences de la santé et plus généralement en sciences de la vie de la santé est actuellement partagée entre les universités, le centre hospitalier universitaire et l'établissement public à caractère scientifique et technique, notamment l'INSERM et le CNRS. Dans chacune de ces structures, les hôpitaux universitaires ont pris leur place. Nombre d'entre eux dirigent des équipes d'accueil, des universités et des mix de recherche. Ce sont eux qui animent les délégations à la recherche clinique des centres hospitaliers et universitaires. Ce sont eux que l'on retrouve à la direction générale de l'INSERM jusqu'il y a 4 jours. Mais dans les équipes de direction de l'INSERM et du département des sciences de la vie du CNRS, dans les commissions scientifiques de spécialité de l'INSERM et du CNRS. Il faut noter que 50% des unités INSERM sont dirigées par des hôpitaux universitaires, soulignant ainsi leur implication dans la recherche biomédicale et en santé. Les études diligentées par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers et universitaires, en lien avec la conférence des présidents de commissions mixtes d'établissements de CHU, la Fédération hospitalière de France et la conférence des doyens des facultés de médecine objective la participation des hôpitaux universitaires à la recherche. De nombreux rapports ont illustré cet apport de la recherche en biologie santé. Dans l'université, où les facultés de médecine peuvent réaliser jusqu'à 50% de la production scientifique en fonction de la taille de l'université et de ses composantes. La composante santé est souvent la justification de la recherche fondamentale d'amont, voire prémédicale, et la justification pour répondre aux critiques classiques des grandes revues Nature, Cell, Science, What is the clinical relevance of your findings? La médecine. Au niveau national et international, la France est le 4e publicateur mondial en biologie santé. Et l'INSERM se situe au niveau du Medical Research Council anglais, alors que depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'effort de la recherche française s'est fait surtout sur l'atome civil et militaire, les transports, l'espace et la physique. Enfin, les facultés de médecine ont une spécificité, la recherche clinique et la recherche de transfert entre le fondamental et l'appliqué. Cette recherche clinique a trois grandes caractéristiques. Elle s'adresse aux patients, donc directement aux citoyens. Elle a une forte valorisation industrielle avec la grande industrie pharmaceutique. Elle permet un retour rapide des découvertes d'amont sur les soins aux patients. Il faut enfin préciser que dans pratiquement tous les laboratoires ou unités propres de recherche de l'enseignement supérieur sont formés un grand nombre d'étudiants non médecins, scientifiques, pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs, sociologues, mathématiciens appliqués, informaticiens et sont employés une quantité importante de chercheurs non médecins. Il reste à rappeler que les grandes découvertes biomédicales se sont toujours faites à l'interface des disciplines scientifiques et de la biologie, mathématiques et biologie, échographie et la théorie des fractales, physique et biologie, par exemple la résonance magnétique nucléaire, chimie, physique et biologie, par exemple l'émission de positons ou le PET scan. Les propositions. Il faut augmenter le poids de la biologie santé en France. Il s'agit d'un problème de santé publique et de demande sociétale qui tient le marché des médicaments. « Tiens le monde », raconte M. Zerouni, directeur général du NIH, francophone, d'origine algérienne et maintenant directeur général du NIH. Le mouvement d'autonomie des universités doit être l'occasion, au nom du travail accompli, et pour qu'il puisse se poursuivre, d'amplifier l'autonomie des facultés de médecine pour leur permettre précisément de rester ce trait d'union entre l'université d'une part et le monde de la santé d'autre part, et pour leur permettre de poursuivre avec l'adaptabilité et la flexibilité nécessaire leur triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. La formation. Bien que l'intégration des professions médicales et pharmaceutiques au cursus LMD soit difficile en raison de la nécessité de maintenir un concours en fin de première année sans possibilité de sélection à l'entrée de cette première année et de l'existence par ailleurs pour les étudiants en médecine de l'examen classant national, la mise en place d'un tel cursus présentera l'avantage de faire évoluer la formation des quatre professions médicales, médecine, odontologie, maïeutique et la pharmacie dans un sens conforme à l'esprit du LMD pour ce qui concerne la nature et l'organisation de l'enseignement et de permettre davantage d'interactions entre les différentes filières médicales et non médicales au sein de l'université. Dans le rapport Tuiliez, certaines propositions permettent d'envisager des flux entrants, mais aussi des flux sortants d'étudiants durant les années de première année, deuxième année et troisième année de licence, assurant ainsi un décloisonnement de ces professions grâce à la mise en place de passerelles. La mise en place, par ailleurs, d'enseignements mutualisés au sein des professions de santé, mais également entre les différentes filières de l'université, permettront à l'étudiant d'envisager des réorientations impossibles auparavant grâce à ce parcours personnalisé. L'obtention de diplômes, de licences ou de masters doit présenter un atout pour les étudiants qui ne souhaiteraient pas exercer un métier directement lié aux soins, mais qui voudraient s'orienter vers des métiers en rapport avec les biotechnologies, la recherche ou les métiers non soignants ayant rapport avec la santé. La valorisation de la recherche et la mise en place de parcours courts de formation à la recherche devraient sensibiliser les étudiants à la recherche biomédicale et en santé, alors que, simultanément, le principe même du LMD devrait favoriser les échanges entre étudiants des différentes composantes de l'université dans des domaines variés ayant rapport avec la santé, mais aussi bien dans le domaine de la biologie que des sciences humaines et sociales. Enfin, les liens avec les universités étrangères du fait de l'organisation de LMD devraient pouvoir être optimisés. La recherche, outre leurs liens avec le CNRS, l'INSERM, mais aussi à travers d'autres établissements d'enseignement comme l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, les facultés de médecine sont et doivent demeurer le lien entre le monde de la santé d'une part, le monde de l'université d'autre part. Elles ont mis spontanément en place, avec les conférences des directeurs généraux, des présidents de CME et la Fédération hospitalière de France, une commission nationale de la recherche destinée à coordonner les efforts de recherche des instances constitutives des centres hospitaliers et universitaires. Elle demande de généraliser l'association des centres hospitaliers universitaires aux contrats quadriennaux des universités, de même qu'elle souhaite la participation effective des universités et de leurs présidents au contrat d'objectifs et de moyens signé par le centre hospitalier universitaire et l'agence régionale d'hospitalisation. Elles doivent, grâce à l'implication de leurs hospitalo-universitaires, continuer de promouvoir la recherche clinique des centres hospitaliers universitaires portés par les contrats régionaux et nationaux. Elles constitueront aussi pour la recherche l'interface efficace entre le centre hospitalo-universitaire et les pôles de recherche de l'enseignement supérieur nouvellement créés. Gouvernance. Les facultés de médecine ont fait la preuve de leur adaptabilité, de leur ouverture, de leur dynamisme. Pour poursuivre au sein des CHU d'une part, des universités d'autre part, la totalité de leurs missions conjointes de soins, d'enseignement et de recherche, elles doivent bénéficier des moyens propres à assurer au sein des universités leur gouvernance. La loi du 10 août 2007 a été votée. Nous devons nous y adapter en attendant peut-être une nouvelle loi. Les doyens et leurs conseils doivent pouvoir prendre toutes les mesures résultant de l'application des conventions. Les facultés de médecine proposent une réévaluation périodique de tous les enseignants titulaires de toute l'université et PAC de la médecine. Enfin, les facultés de médecine ne peuvent être contraintes à se replier dans des universités autonomes, luttant entre elles dans le classement de Shanghai, car aujourd'hui, le destin des facultés de médecine et des CHU s'inscrit dans l'interrégionalité que la France a organisée pour structurer les soins, l'enseignement et la recherche en sciences de la santé. Les pôles de recherche d'enseignement supérieur qui se créent ne tiennent pas compte de cette contrainte pour obéir, certes, à d'autres contraintes légitimes pour d'autres composantes des universités. Les facultés de médecine doivent, par leur statut, assurer la cohérence entre leur appartenance au monde universitaire et leur appartenance au monde de la santé. Il y va de l'avenir des centres hospitaliers et universitaires dont la vocation moderne est de vivre leur avenir dans leur interrégion, seuls capables par leur taille de répondre aux enjeux de la médecine moderne. Conclusion et portée symbolique. Tous les doyens des facultés de médecine ont été frappés cet été par l'ambiance psychologique entourant la discussion de la loi et par le fait que la médecine et son monde hospitalo-universitaire avaient été maltraités. C'est l'exacte phrase d'un membre éminent de cette compagnie. Maltraités par la représentation nationale, peut-être pas par le peuple, et maltraités par certains médecins eux-mêmes. Il est vrai que le médecin irrite, parce que c'est un certain pouvoir qui irrite d'autres pouvoirs, surtout de ceux qui n'ont jamais été malades, parce qu'après, guéri ou mort, cela va beaucoup mieux. Il s'agissait de façon idéologique de mettre probablement au pas une symbolique encore forte, un lieu d'exception, que l'on ne regardait plus le quotidien du médecin au pied des malades, mais que n'apparaissaient plus que des efforts marginaux dévoués à la performance et à la gloire personnelle de leurs auteurs, sociétés du spectacle et de la mise en scène. L'image du médecin, des 220 000 médecins reste bonne dans la population. Toutes les enquêtes le montrent. Et la philosophie de la médecine à la française, basée sur des rapports non marchands, attire de plus en plus certains pays qui avaient une préférence anglo-saxonne très nette et se tournent maintenant vers la France. Il est évident que les rapports malades-médecins changent. Les malades et leurs familles sont plus exigeants et la loi Kouchner sur les droits des malades a été dans leur sens loi molle qui oublie en l'occurrence les devoirs des malades et pousse les médecins à se déresponsabiliser. Et puis les malades sont plus savants grâce à Internet. Je rappellerai d'ailleurs la phrase de mon prédécesseur, le doyen Bernard Guiraud-Chaumeil, qui disait « Lorsque les médecins étaient ignares, ils étaient sacrés. Devenus savants et encore inefficaces, ils étaient respectés. Et maintenant qu'ils sont savants et efficaces, ils sont suspectés. » Ce qui fait craindre l'arrivée dans le discours singulier entre médecin et malade d'un autre partenaire, le juge et l'avocat. Plus surprenant encore a été le dénigrement de certains hôpitaux universitaires pour la communauté dont ils font pourtant partie. Comme si autodétruire et détruire les autres confrères ne laissait qu'un seul personnage indemne de cette remise en question, soi-même. Cette posture est typique d'une déréliction de corps et d'une méconnaissance du bilan positif de l'annonce de 1958 de Robert Debré. Certains même ne semblant même pas l'avoir lu avant d'écrire un article dans Le Monde. Peut-être avons-nous aussi pas assez fait le ménage dans nos propres rangs. Enfin, je suis inquiet pour le renouvellement des générations médicales à venir, qui dans une société post-moraliste vont soit ne pas venir, soit s'inscrire dans une époque où le devoir est édulcoré et anémié, où l'idée du sacrifice du moi est socialement délégitimée, où la morale n'exige plus de se dévouer pour une fin supérieure à soi-même, où les leçons de morale sont recouvertes par les spots du mieux vivre, les 35 heures, le soleil des vacances et les délégations médiatiques. Les doyens sont donc confrontés à une situation propice à la démotivation du corps médical, hospito-universitaire et par rapport à cette loi. La responsabilité médicale ne peut s'accompagner d'une déresponsabilisation de fait. Je terminerai par une phrase de Claude Lévi-Strauss que je cite de mémoire. Une société qui maltraite ses prêtres, ses mages, ses chamans et ses médecins est une société malade qui va mourir. C'est une constante depuis la nuit des temps. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication de Bernard Charpentier, président de la Conférence des doyens de médecine, intitulée « La loi sur l'autonomie des universités et l'enseignement de la médecine ». C'était la séance de l'Académie des sciences morales et politiques du 15 octobre 2007.